OK, on en est à notre 39e leçon. Donc aujourd'hui, on va regarder la part que prend Dieu le Fils dans l'Alliance éternelle. La part de Jésus-Christ dans l'Alliance éternelle est si grande que Christ se voit appelé Alliance lui-même. Donc les mots Christ et Alliance sont confondus dans le passage, par exemple, d'Ésaïe 42, verset 6, dans la version Osterval. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations. Donc ici, le nom de Jésus, dans une prophétie, est appelé le mot alliance lui-même. La version anglaise King James rend le même verset de la façon suivante. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and keep thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Donc, ça dit, give thee for a covenant. Donc, c'est vraiment l'utilisation du mot Christ et alliance qui sont interchangeables dans le texte. Dans Ésaïe 49, verset 8, encore une fois dans la version Osterval, ainsi a dit l'Éternel, je t'ai exaucé dans les temps favorables, je t'ai secouru au jour du salut, je te garderai, j'établirai en toi mon alliance avec le peuple pour relever le pays et donner en partage les héritages dévastés. Encore une fois, la King James donne encore à peu près la même façon de faire. Thus said the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages. Donc, to give thee for a covenant, c'est vraiment te donner comme alliance. Donc, dans l'alliance éternelle, Christ est tout en tout. Il est présent absolument dans à peu près toutes les parties de l'Alliance. Donc, toutes les bénédictions qui sont reliées à l'Alliance et toutes les promesses qui sont aussi reliées à l'Alliance sont par la personne et l'œuvre de Christ. Deuxièmement, en Christ convergent toutes les facettes et offices de l'Alliance. Il est à la fois la tête et représentant pour son peuple, ce que les anglophones appellent dans les livres de théologie « representative head of his people ». Donc, c'est vraiment comme Adam était le représentant de toute la race, Christ est aussi le représentant pour les élus. Donc, il est à la fois la tête et le représentant. Il est aussi le médiateur. On a vu dans nos leçons sur le tabernacle que le souverain sacrificateur était celui qui faisait vraiment office de médier entre les hommes et Dieu, qu'il était l'intermédiaire. Donc, Christ est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il en est aussi le garant, ce que les anglophones appellent « the surety ». Donc, le garant, ça veut dire que quand on se dit qu'on se porte garant pour quelqu'un, ça veut dire disons que quelqu'un fait un emprunt, puis toi, tu signes pour lui, tu te portes garant quand advenant qu'il ne paye pas, c'est toi qui vas payer. Alors, le Christ s'est porté garant dans les décisions qui avaient été prises entre les trois personnes de la Trinité, et c'est ce qui fait la force. Il en est aussi le testateur. Il en est aussi le messager. Troisième chose, le Père a trouvé en Christ, premièrement, son parfait consentement. Alors, ça n'a pas été une décision prise unilatéralement. Le Christ a accepté les décisions qui avaient été prises. Psaume 46, versets 6 à 8. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors, ça dit bien dans le verset 8, je veux faire ta volonté. Alors, il ne le fait pas parce qu'il a été contraint de le faire, il le fait absolument avec son plein consentement. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, les versets dans les deux passages expriment clairement le fait que Christ était pleinement consentant dans ce qui est, dans tout le déroulement des décisions qui avaient été prises dans l'Alliance. Aussi, sa parfaite acceptation. Psaume 48, verset 8, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Alors, à cause de la faiblesse et de l'inefficacité du système sacrificiel de l'Ancien Testament à ôter le péché, c'est sûr que la Nouvelle Alliance avait pour but de la remplacer parce que dans la Première Alliance, le péché était seulement couvert, les péchés n'étaient pas ôtés. Alors, dans Hébreux 7, versets 18 et 19, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Alors, dans le fond, quand Christ est venu, il devenait celui qui venait montrer que la première alliance avait été abolie à cause de son, comme ça dit dans le texte du verset, impuissance et inutilité. Et elle a été remplacée par la nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hébreux 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Voyez-vous, c'est clair dans Hébreux 10, verset 11, ça dit que le sacrificateur de l'Ancien Testament qui faisait le service à tous les jours offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Tandis que le sacrifice de Christ, lui, ôte les péchés. Alors, Christ, par une seule offrande, celle de son propre corps qu'il a offert au Père en sacrifice, il a, par le fait même, effacé les péchés de son peuple. Dans Hébreux, par exemple, chapitre 9, verset 26, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Alors, on a le parfait consentement, la parfaite acceptation. On a aussi le parfait empressement. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait volontairement, librement et immédiatement. Dans le psaume 40, verset 8, « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Donc aussi la parfaite entente. Et à remarquer que l'entente n'était pas simplement verbale parce que les Écritures déclarent que ce qui devait se passer dans les décisions de l'Alliance était écrite dans un livre. Donc, c'est sûr que ça fait référence ici au Saintes Écritures. Dans le psaume 40, verset 7, « Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Alors, le Seigneur ici, le Seigneur Jésus lui-même dit que les choses qui devaient se dérouler dans les décisions de l'Alliance avaient été écrites dans le rouleau du livre. Alors, c'est sûr que ça fait référence aux Saintes Écritures. Aussi, le parfait accomplissement. Jean 17, verset 12, concernant les élus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Alors il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon Judas, le fils de perdition. Jean 1, verset 14. Concernant le fait qu'il se devait d'être incarné, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors ça dit bien dans Jean 14, et la parole, qui représente la parole, représente la personne même de Christ, a été faite chair. Alors ça concerne son incarnation, une décision qui avait été prise dans l'éternité que cette chose devait s'accomplir de cette manière. Romains 10, versets 2 à 4, concernant le fait qu'il se devait d'avoir obéi parfaitement à la loi à la place des élus. Romains 10, versets 2 à 4, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Et c'est pas une chose nouvelle, et ça continue encore aujourd'hui. L'homme a toujours tendance à vouloir établir sa propre justice, croire que c'est par ses bonnes actions, le cumul de ses bonnes actions, qui... devant Dieu, il croit que c'est ça qui va lui mériter le ciel, alors que les Écritures disent que c'est pas notre propre justice, notre justice propre, c'est vraiment la justice de Christ qui nous est imputée. Vraiment très important à saisir, parce que si quelqu'un pense qu'il peut atteindre le ciel par sa propre justice, il n'entrera pas au ciel. 1 Pierre 3, verset 18. C'est concernant le fait qu'il souffrirait la mort qui était reliée à la désobéissance à la loi, et ceci encore une fois à la place des élus. Alors les Écritures nous disent que tout péché se doit d'être payé. Alors il y a toujours la possibilité, ou c'est toi qui le paye, ou c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Alors dans les Évangiles, la parole nous enseigne que Christ a accepté de souffrir souffrir la peine qui nous était due, excusez-moi. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Christ, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et il y a beaucoup d'autres passages aussi qui parlent de ça. Éphésiens 5, verset 2. Concernant qu'il s'offrirait lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ici, il y a un lien à faire avec ce qu'on est en train d'étudier dans le tabernacle. Et quand on étudie les différents types de sacrifices que Dieu avait instaurés dans le livre de Lévitique, par exemple, il y avait 5 types de sacrifices. Et le premier était celui qu'on appelait une agréable odeur. C'est vraiment le symbole que la raison première pour laquelle Christ a fait les choses n'était pas pour les hommes en premier. C'était vraiment pour le Père, par amour pour le Père. Donc, le sacrifice qu'on appelle de l'Holocauste, le premier sacrifice qui est présenté, la première forme de sacrifice qui est présentée dans le livre de Lévitique. Et on oublie souvent ça, nous autres, les hommes, parce que on pense toujours que le salut était d'abord pour les hommes. Mais la première chose que le Christ voulait faire, c'était de rétablir la gloire de son Père aux yeux des hommes. Hébreux 9, verset 12, maintenant concernant le fait que les élus se devaient d'être rachetés, ça dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Alors, les mots sont pas, les mots sont forts. Éternel, la rédemption est éternelle. Quelles sont les applications qu'on peut faire aujourd'hui de la leçon sur la part de Dieu le Fils? Premièrement, je dirais les alliances divines, celles conclues entre les trois personnes de la Trinité, possèdent plusieurs caractéristiques. Le fait qu'elle soit parfaite, le fait qu'elle soit sage et le fait qu'elle soit immuable. Donc, notre repos, notre paix, notre assurance est solide et ancrée en Dieu lui-même. Adorons-le, louons-le, servons-le et remercions-le. C'est sûr que si quelqu'un se met à réfléchir et à méditer sur tous les différents aspects qu'il y a dans l'alliance de grâce, à la fois la part que Dieu le Père, qu'on a vu dans la leçon précédente, la leçon que prend Dieu le Fils et la leçon et l'ensemble des choses qui sont attribuées au Saint-Esprit, c'est beaucoup de choses à méditer. Deuxième chose, je dirais que la leçon devrait nous amener à étudier encore avec plus d'amour et de diligence son œuvre de grâce merveilleuse pour sa plus grande gloire. Alors, c'est sûr que le mot « grâce » dans le vocabulaire des évangéliques, c'est un mot qui est utilisé très souvent. Et le danger, à force de l'utiliser, c'est que ça devient un peu comme une coquille vide. On perd un peu de vue l'ensemble de toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de ça, de toute la profondeur, de toute la sagesse. C'est immense. C'est des choses qui concernent l'éternité et on ne devrait jamais en arriver à même à prononcer le mot grâce sans qu'il y ait un écho dans notre cœur. Alors que le Seigneur soit loué, à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pour les décisions qu'ils ont prises dans l'éternité concernant notre salut.
Amen. Amen.